Écoute. Écoute.
Bonjour, mon invité aujourd'hui est Alain Juppé, actuellement membre du Conseil constitutionnel, ancien Premier ministre, ancien ministre des Affaires étrangères, et c'est un peu à l'ancien ministre des Affaires étrangères que je m'adresse pour avoir votre regard sur l'actualité mondiale. Nous vivons dans un monde chaotique. D'ici peu, il va y avoir une élection présidentielle américaine. Quelle vision avez-vous de la politique américaine sous Donald Trump et de ce qu'elle pourrait devenir avec un autre président que Donald Trump ?
Merci de votre invitation. Je suis toujours avec beaucoup d'intérêt les travaux de l'IRIS. Je vous avoue ma perplexité sur ce qui se passe aux États-Unis parce que je n'imaginais pas qu'un pays qui a une telle tradition démocratique puisse donner le spectacle qu'il donne aujourd'hui. Le débat, pour l'instant unique, entre Biden et Trump a été une espèce de farce, vraiment qui quasiment déshonorante pour ce régime. Et donc, je suis extraordinairement surpris par cette situation. Cela dit, l'enjeu de cette élection est majeur, pour nous tous. Je ne ferai pas de pronostic à ce stade, je m'en garderai bien. Il n'est pas exclu que Trump gagne, finalement, parce que nous connaissons assez mal les États-Unis. Pour nous, les États-Unis, enfin, je parle pour moi, c'est Boston, New York, un peu Washington, et puis Los Angeles et San Francisco. Il y a tout ce qui est entre les deux. Et c'est là qu'est sans doute...
C'est là que votent sont les électeurs de Trump.
Le socle de Trump, voilà. Alors, est-ce que... beaucoup peut dépendre du résultat de cette élection. Je pense en particulier à l'accord de Paris et à la lutte contre le changement climatique, qui est un enjeu fondamental et sur lequel Trump continue à faire un déni de réalité. Est-ce que ça changera fondamentalement les relations entre les États-Unis, et l'Europe et la France? Je n'en suis pas si sûr, parce que le retour de l'isolationnisme est assez cyclique aux États-Unis, et c'est pas Trump qui en a donné le top, si je puis dire. Un certain éloignement des États-Unis vis-à-vis de l'Europe aussi, ça date d'Obama, le pivot vers l'Asie, c'est pas tout à fait nouveau. Voilà, c'est une élection qui est un enjeu majeur. Mais il ne faut pas non plus imaginer que nous allons retrouver avec les États-Unis une relation de confiance comme celle qui est
plaisante. Notamment Biden ou Trump, la législation extraterritoriale, plutôt l'application extraterritoriale de la législation américaine est quand même un point majeur d'atteinte à la souveraineté des pays européens.
Une sorte de violation du droit international, je crois qu'on peut aller jusque-là, et c'est pas Trump qui l'a inventé, donc oui. Il y a une espèce de constante dans cette position. Voilà, je crois que aussi en termes stratégiques, la relation avec l'OTAN et les pays européens, c'est pas Trump qui a non plus complètement changé les choses. Donc voilà, il faut être très vigilant. Je crois que Biden, s'il est élu, il mettra des formes. Donc c'est là qu'on pourra avoir un changement.
Et est-ce que c'est
sur
pas...
le fond, c'est pas sûr.
Est-ce que justement, il n'y a pas le risque qu'on se dise avec Biden, eh bien, on revient comme avant, que les désirs ou progrès, même timides, sur l'autonomie stratégique européenne soient un peu émoussés. On se dit, avec Biden, on a un président qui est poli, qui est courtois, qui nous respecte, contrairement à Trump, et donc revenons dans une situation, finalement, de dépendance à l'égard des États-Unis qui caractérise toujours la situation européenne 30 ans après la fin de la guerre froide. C'est quand même paradoxal.
C'est vrai. Certains peuvent se laisser prendre, effectivement, un discours plus bienveillant. Je pense quand même qu'il y a une prise de conscience en profondeur. Je lisais récemment une interview du président de la Commission des Affaires étrangères du Bundestag, M. Röttgen, dans Le Monde, et où il disait, à propos de la relation transatlantique, rien ne sera plus jamais comme avant. Donc je crois que même en Allemagne, il y a une prise de conscience que finalement le parapluie américain n'est plus ce qu'il a pu être pendant quelques décennies, et qu'une autonomie stratégique de l'Europe, dans cette interview, le président de la Commission des Affaires étrangères utilise le mot de puissance stratégique en parlant de l'Europe.
Ce qui est un mot rarement utilisé par les Allemands.
Rarement. Moi, j'aime bien ce mot-là et ce concept parce que je pense qu'il est absolument vital. Mais beaucoup de mes amis me disent que je suis le seul à y croire.
Est-ce que vous pensez que l'affirmation, justement, par une autre personnalité allemande, Madame van der Leyen, d'une commission géopolitique, la nouvelle commission qui a été mise en place, qui est quand même un rôle fondamental dans le plan de relance, est-ce que du coup, entre cette perception des nations européennes qu'il est nécessaire de faire quelque chose par rapport à un éloignement américain et une commission qui semble plus volontaire et plus active sur ces points que les deux précédentes, est-ce que vous pensez que on est passé à autre chose, que quelque chose est enfin en train de se passer au niveau européen?
Je l'espère. Je n'en suis pas si sûr.
Oui.
Parce que l'Union européenne n'a jamais été aussi fortement attaquée qu'elle l'est aujourd'hui, de toutes parts, de l'extérieur. Trump, c'est quand même le premier président des États-Unis à avoir utilisé à propos de l'Europe le mot « ennemi ». Il l'a dit dans une interview. Bon, Poutine n'a pas pour la construction européenne une bienveillance particulière, c'est moins qu'on puisse dire. Il le fait plus subtilement, mais il essaye de pousser tout ce qui peut nous diviser. Et puis, le verre est dans le fruit à l'intérieur. Hein. La question se pose de savoir si tous les États membres aujourd'hui partagent les mêmes valeurs, la même vision de la démocratie, la charte des droits fondamentaux européens qui est inscrite dans nos traités. Vous voyez à quel pays je pense aujourd'hui qui pose problème. Donc l'Europe est quand même dans un état de fragilité. Et en même temps, je pense qu'il y a un moment européen, à cause de la position des États-Unis, bien sûr, qui pourrait perdurer, à cause du jeu des puissances et du fait de cette prise de conscience que si nous ne nous réunissons pas davantage, nous serons vassalisés entre la Chine, les États-Unis, même la Russie, qui n'a peut-être plus les moyens de la puissance, mais enfin qui a la puissance politique encore, hein, et qui attaque de front ce que nous représentons. Poutine a quand même déclaré que l'idée libérale était morte.
Et est-ce que par rapport à la menace de Poutine, justement, des pays européens, je pense notamment à la Pologne, aux Pays-Baltes, dont l'histoire était mouvementée dans les relations avec Moscou, est-ce que ces pays ne sont pas un frein à l'autonomie européenne, puisqu'ils comptent avant tout sur une protection américaine plus que sur une protection interne de l'Europe?
Bien sûr, quand je vous parlais des divergences entre guillemets idéologiques entre pays européens sur les valeurs démocratiques, c'est pas la seule. C'est aussi sur la conduite de la diplomatie européenne vis-à-vis de nos voisins. Sur la Russie, comme sur beaucoup d'autres sujets, les choses sont extrêmement complexes. Nous avons beaucoup de raisons de nous antagoniser avec la Russie. D'abord, il y a un fossé idéologique, que j'ai rappelé tout à l'heure, la fin du libéralisme. Bon, moi je crois toujours au libéralisme, j'ai même pas envie d'écrire un livre pour faire l'éloge du libéralisme, qui a si mauvaise réputation, y compris chez nous. Et puis, il y a la violation du droit international, même si on peut expliquer que la Crimée, historiquement, tout ce qu'on voudra, il y a une violation évidente du droit international. Les agissements de la Russie aussi en Ukraine, la position ambiguë sur la Biélorussie, bref, je le répète, il y a beaucoup de raisons de ne pas considérer la Russie comme un partenaire fiable. Et en même temps, on ne peut pas aller à la confrontation. C'est un voisin, c'est un fournisseur de gaz, de temps en temps faire aussi de l'économie et des affaires. La Russie peut jouer un rôle aussi de modération. Peut-être arrivera-t-on dans le groupe de Minsk à arrêter la confrontation entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Hein, et la Russie a des parties prenantes, comme vous le savez. Donc voilà, c'est ce qu'essaye de faire le président Macron aujourd'hui, de relancer un partenariat stratégique avec la Russie, tout en disant un certain nombre de choses.
Par rapport au gaulliste que vous êtes, ça parle, puisque lorsque de Gaulle avait, à l'égard de l'Union soviétique, même s'il parlait de la Russie de toujours, et assez peu de l'Union soviétique, mais il avait quand même voulu entamer un dialogue avec Moscou, à une époque où Moscou était peut-être encore plus répulsif qu'elle ne l'est aujourd'hui. Donc il y a quand même toujours cette volonté, je dirais française depuis de Gaulle, d'avoir un contact privilégié avec la puissance autour de Moscou, la puissance russe, anciennement soviétique, ne serait-ce que pour faire un peu contrepoids, pour augmenter les marges de manœuvre de l'Europe et de la France.
Moi, je crois que nous sommes aujourd'hui dans la même situation, c'est-à-dire cette espèce d'ambiguïté de notre relation avec la Russie. J'ai rappelé les raisons que nous avions de ne pas lui faire tout à fait confiance, et en même temps la nécessité de parler avec elle. De Gaulle a commencé très tôt, à la fin de la guerre.
Oui,
d'abord à la fin de la guerre. Donc voilà, il est allé voir Staline, donc on peut rappeler cette histoire. C'est un peu la même chose avec la Chine. Il y a aussi, chez les gaullistes, cette tradition de reconnaissance d'abord, puis de dialogue avec la Chine. Donc, on est dans un monde où, bon, pardon de cette banalité, et c'est pas propre à la situation d'aujourd'hui, où on est en permanence à la recherche d'équilibre entre des tentations ou des intérêts contradictoires.
Pour revenir à l'Europe a adopté un plan de relance dont beaucoup pensaient qu'il ne pourrait pas avoir lieu, qui est quand même très novateur, des tabous ont été abandonnés. Est-ce que vous pensez que ce plan aurait été adopté si le Royaume-Uni était resté dans l'Union européenne? Et pour le dire autrement, est-ce que du coup le Brexit, au-delà de ses inconvénients, n'est pas une opportunité pour l'Europe d'avancer plus vite par rapport à un pays qui avait plutôt un rôle de frein auparavant que de moteur?
C'est une opportunité et en même temps un risque d'une certaine manière. Je reviens au plan de relance de la Commission, c'est un acte fondamental. Je voudrais souligner en particulier un événement qui pour moi est absolument majeur, qui est l'acceptation par l'Allemagne de la mutualisation de la dette. Mmh. J'ai longtemps travaillé avec
les ministres des Finances et du Budget, aussi,
bleu, etc. Donc c'était la doctrine absolue de l'Allemagne. On ne va pas payer pour les États du Sud. L'Allemagne ne va pas s'endetter pour etc. Vous connaissez le raisonnement. Et là, il y a eu entre Macron et Merkel un virage absolument historique. Hein. D'ailleurs, j'évoquais cette interview de M. Röttgen. Il dit, pouvait-on imaginer que l'Allemagne accepte cet événement? Donc ça, c'est un signe pour moi très, 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 très positif d'une prise de conscience de la nécessité de faire avancer l'Europe. Le Brexit, bon, je dirais, pour moi, c'est pas tout à fait une surprise. La Grande-Bretagne n'a jamais adhéré à la vision que nous avions de la construction de l'Union européenne. Pour elle, c'était un marché, c'était pas l'amorce d'une puissance géopolitique. Et De Gaulle avait bien senti le risque. Bon, Cameron a pris, lui, un risque tout à fait mal calculé en lançant ce référendum. Aujourd'hui, où en est-on ? Moi, je voudrais d'abord saluer le travail de Michel Barnier, parce qu'il a fait un boulot considérable, et notamment, il est arrivé à maintenir la cohésion des 27.
Oui, qui n'était pas gagné
et qui apparemment se maintient. Donc les dernières négociations ont lieu avec des points difficiles comme la pêche ou la relation entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande. Donc on allait là. Est-ce qu'on va vers un accord ou pas d'accord? Je ne ferai pas de pronostic au moment où je parle. Alors est-ce que tout ça est bon pour l'Europe ou pas? On peut avoir effectivement l'analyse que vous esquissiez, savoir, et moi j'en ai fait l'expérience quand j'étais au Quai d'Orsay, la Grande-Bretagne a toujours été un frein absolu à tout progrès, y compris sur la sécurité européenne. Malgré Saint-Malo, Chirac, Tony Blair, qui reconnaissaient la nécessité de donner une réalité à une, ce que j'appellerais, c'était pas exactement le vocabulaire, mais un pilier européen de sécurité à l'intérieur de l'OTAN ou en coopération avec l'OTAN. Donc il y a eu des évolutions, mais moi je me suis heurté à une fin de mon recevoir absolue quand j'ai parlé d'un quartier général européen, etc., en matière de défense. Donc on peut de ce côté-là considérer que la Grande-Bretagne cessera de freiner cette évolution de l'Union européenne vers plus de bon, je ne veux pas dire de fédéralisme, parce que pour un gaulliste, ça serait évidemment sacrilège, enfin plus de délégation de souveraineté.
Oui, c'est bien ça. D'autonomie, tout simplement.
Et d'autonomie stratégique, bien sûr. Alors, de l'autre côté, alors c'est un risque majeur pour la Grande-Bretagne aussi. Hein. On rappelle souvent qu'elle fait la moitié de son commerce extérieur, je crois que c'est à peu près le chiffre avec l'Union européenne, et vice-versa. C'est aussi aujourd'hui une fracture dans la société britannique, hein, avec la montée en puissance du séparatisme écossais. Donc, je pense que c'est une mauvaise affaire pour la Grande-Bretagne. Hein. L'idée qu'ils vont entretenir une relation particulière avec les États-Unis, qui va leur ouvrir sur leur marché, son marché me paraît, leur marché me paraît une douce illusion.
D'être d'une autre époque.
D'une autre époque, de même le rêve impérial, hein, Commonwealth, etc., c'est retour vers le passé. Donc c'est un risque majeur que prend la Grande-Bretagne, mais c'est son affaire. C'est un risque pour nous aussi, parce que c'est quand même un affaiblissement de l'Europe. Mmh. On perd une économie majeure sur le continent européen, on perd une puissance militaire, une puissance nucléaire. Jusqu'à présent, j'espère que ça continuera. On avait quand même au Conseil de sécurité une assez bonne coopération entre les pays européens, en particulier entre les deux membres permanents du Conseil de sécurité. Donc ça, on risque de le perdre. Et il faut donc qu'au-delà du Brexit, on maintienne avec la Grande-Bretagne un lien particulier, commercial, économique, vraisemblablement, mais aussi stratégique et militaire. De ce point de vue-là, les accords de Lancaster House, qui ont été un acte tout à fait important, puisqu'ils touchaient même la coopération en matière nucléaire, mériteraient peut-être d'être réactivés. J'ai pas exactement aujourd'hui le bilan de ce qu'ils ont donné. Je pense que c'est un peu au point mort. Hein. Donc,
au contraire, le Brexit pourrait être l'occasion de le renouveler, de le relancer.
Parce que s'il va bien falloir trouver des moyen de garder avec la Grande-Bretagne une relation qui ne soit pas simplement de proximité géographique, mais aussi politique.
Vous évoquez la Russie, il y a quand même un dossier sur lequel la France a une grave divergence, pour ne pas dire une vision frontale avec la Russie, c'est ce qui se passe en Syrie. Parce que c'est bien l'intervention russe, par des moyens quand même très répréhensibles, qui peuvent être parfois qualifiés de crimes de guerre, qui ont permis à Bachar el-Assad de se maintenir au pouvoir contre sa population.
Pour moi, ce qui s'est passé en Syrie est, on va pas utiliser des mots excessifs, c'est pas mon, mon naturel, mais pour moi un traumatisme personnel, parce que j'étais au Quai d'Orsay en 2011 quand tout ça a commencé, le printemps arabe, donc des étudiants, des jeunes, des moins jeunes syriens qui commençaient à étouffer après des décennies de dictature, descendent dans la rue pour demander un peu de démocratie. Le régime les réprime dans le sang. La torture, les arrestations, les massacres, etc. Et c'est ça qui a entraîné petit à petit la radicalisation de l'opposition, avec une incapacité de cette opposition à s'unir. J'ai vu il n'y a pas très longtemps sur les écrans M. Gallium, qui est un homme tout à fait respectable, hein, que j'avais reçu en 2011, et il avait essayé de constituer un conseil national syrien de l'opposition. C'était un échec total. Donc l'opposition s'est divisée, et on voit à quoi tout ceci aboutit. Mais nous portons, nous aussi, collectivement, une lourde part de responsabilité. Quand vous dites que la Russie est revenue en force, c'est parce que nous l'avons laissé. Et le moment crucial, c'est évidemment la déclaration d'Obama. Si le régime utilise des armes chimiques, c'est une ligne rouge. J'entendais un ancien ambassadeur américain dire qu'en langage diplomatique, lorsqu'on dit ligne rouge, ça veut dire que si on la franchit, on utilise la force. Et j'ai vu aussi à la télévision la réaction d'Obama après l'utilisation et les témoignages absolument incontestables d'utilisation des armes chimiques à la télévision. Je m'en remets au Congrès. Donc il savait qu'il devrait...
L'erreur était de ne pas intervenir ou d'avoir dressé les lignes rouges dont on savait qu'on ne pourrait pas les faire respecter.
Les deux. Ou bien on est décidé à intervenir et... je rappelle cette déclaration, ça va peut-être retourner contre moi, Assad doit partir. Nous l'avons tous dit, nous étions déterminés à le faire partir, parce que nous voyons bien qu'il était le responsable de ce qui se passait sur le terrain. Et puis on ne savait pas donner les moyens. Et à ce moment-là, je reviens à votre question, la Russie arrive. Nous avons ouvert le paysage, si je puis dire, elle en a profité, en se livrant à un soutien systématique du régime, et en ciblant ses premiers bombardements, non pas contre Daesh, mais contre les opposants syriens. Et donc aujourd'hui, on est dans une situation apocalyptique en Syrie, avec plusieurs millions de personnes déplacées à l'intérieur de la Syrie, 3 millions de Syriens en Turquie, 1 million au Liban, dans un pays de 5 à 6 millions d'habitants. Donc c'est un naufrage absolu, un pays détruit. Et pour ma part, je continue à penser que jamais, quels que soient les efforts de la Russie ou de l'Iran, nous n'arriverons à convaincre le peuple syrien que Assad est le bon dirigeant qu'il lui faut pour l'avenir.
Et donc c'est sans issue, puisque les Russes ne vont pas partir et ils maintiennent une présence pour pas cher finalement, et un pays qui est ruiné que personne ne veut reconstruire pour le moment.
C'est une impasse totale, aussi on appellera l'Europe au moment de la reconstruction, voilà, nous jouerons notre rôle traditionnel de banquier. Mais aujourd'hui c'est l'impasse totale, et quand on dit que la Russie est maître du jeu, je ne suis pas sûr qu'elle ait aujourd'hui la façon de s'en sortir. Nous avons été aussi jusqu'à la limite de l'ignominie dans tout ça, puisque les Américains, après avoir utilisé les pour lutter contre Daesh, les ont lâchés à ce campagne parce que la Turquie est intervenue, parce que pour la Turquie, évidemment, un Kurdistan autonome à sa frontière est quelque chose d'inacceptable. Donc voilà, on a accumulé dans cette affaire syrienne les erreurs, les lâchetés, et on est aujourd'hui dans une impasse totale.
Lorsque vous arrivez au Quai d'Orsay en 93, la Chine n'a pas du tout le statut qui est le sien aujourd'hui, et en 30 ans, elle est devenue la seconde puissance mondiale, peut-être bientôt la première en termes de PIB. Comment voyez-vous cette montée en puissance de la Chine, et quelle est la part de risque et d'opportunité que cela peut avoir pour un pays comme la France? Quand moi j'ai commencé à travailler sur les questions stratégiques, le PIB français était 4 fois supérieur à celui de la Chine. Aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est quand même à la fois fascinant, impressionnant et quelque part, ça interpelle quand même.
C'est fascinant. Vous vous souvenez aussi bien que moi, 1973, à l'imperfite.
Oui.
Quand la Chine s'éveillera, le monde tremblera. Bah, vous voyez, vous avez raison de dire qu'aujourd'hui, c'est la première ou la deuxième. Bon, on peut discuter puissance économique, technologique, militaire, spatial, politique aussi. Hein. Et donc c'est une transformation absolument extraordinaire sur la scène mondiale. Est-ce que c'est un danger pour nous? On a l'habitude de dire, ou les Chinois l'ont dit souvent aussi, qu'ils n'étaient pas expansionnistes, qu'ils se satisfaisaient de leur vaste territoire. C'est plus tout à fait vrai. hein, en mer de Chine, ou même sur leur propre territoire, Hong Kong, Taïwan, mm-hmm. et puis surtout en direction de l'Afrique et de l'Europe. Les routes de la soie, c'est pas quelque chose de totalement innocent et non politique. Le fait que le port du Pirée en Grèce soit géré par les Chinois, c'est aussi quelque chose qui...
Il y a aussi, c'est aussi un abandon européen, quelque part.
Bien sûr, bien sûr. Et en Afrique, la multiplication des investissements chinois pose aussi problème dans un continent où la France devrait être moins timide, vraisemblablement. Alors, est-ce que la Chine a un avenir lumineux? Elle a des faiblesses, hein, des inégalités géographiques et sociales qui restent très fortes, encore beaucoup de pauvreté au milieu de plusieurs centaines de millions de Chinois. Un modèle économique qui est fragile, hein, ça a été jusqu'à présent l'usine du monde, avec un développement fondé essentiellement sur l'exportation, compte tenu de la montée du protectionnisme américain ou autre, les Chinois sont en train d'essayer de réorienter leur modèle économique vers le marché intérieur. C'est pas si
ça, ça peut marcher pour vous?
Ça peut marcher parce qu'ils ont un marché absolument considérable.
C'est la légitimité du Parti communiste, elle est par la réussite économique, plus tellement par l'étude des œuvres de Marx et de Mao.
Bien sûr. Bien sûr, et c'est ça qui fait sa force et sa fragilité, parce que si ce développement économique se ralentit, mm-hmm. peut-être que les Chinois seront moins enthousiastes. Dans les fragilités aussi, alors, est-ce que le régime politique est une fragilité ou une force? Ça, l'avenir me le dira. Hein. Vous vous souvenez qu'on a longtemps prédit que le développement économique et l'émergence d'un capitalisme qui ne dit pas son nom allait s'accompagner d'un progrès de la démocratie. On observe exactement le contraire.
Ça vous paraît durable? Est-ce que vous pensez qu'à terme, la nouvelle génération de Chinois va être plus...
Je n'en sais rien, oui. Je le souhaite. Mais j'ai lu il n'y a pas très longtemps l'ouvrage d'un journaliste allemand, ça s'appelle « Dictature 2.0
oui. ».
C'est terrifiant.
Oui.
L'utilisation...
C'est à charge, très à charge.
Très à charge, il a vécu en Chine, je crois, assez longtemps. Donc, voilà, et quand même, le crédit social, le permis à point politique, ça existe apparemment dans certaines villes chinoises, et ça risque de se généraliser. Donc, c'est assez terrifiant, et donc, il y a une puissance de verrouillage politique qui est considérable. Donc, ça peut être stable. Alors, quelle attitude avoir vis-à-vis de cette puissance considérable? Bon, tout le monde cherche, hein. Trump, de temps en temps, fait le bras de fer, et puis il recule, et puis il avance à nouveau, donc parce que c'est un pragmatique, parfois, plus qu'on le dit, quand même. Hein. Quant à l'Europe, elle est un peu désarçonnée par tout cela. Moi, je pense que nous avons deux choses à faire. D'abord, ne pas renoncer à dire les choses. Ne pas renoncer à dire que le Tibet, les Ouïghours, etc., c'est une forme d'élimination de minorités qui est totalement intolérable et contraire à tout ce à quoi nous croyons. On le dit avec plus ou moins de prudence, le président actuel le dit aussi, je crois qu'il faut le dire. Parfois on se laisse terroriser par la réaction chinoise, mais non. Et de l'autre côté, la deuxième chose qu'il faut faire, c'est pas d'y aller séparément. Les Chinois sont passés maîtres dans l'art de pratiquer la technique des Horaces et des Gurias. Ils nous font courir, ils reçoivent Mme Merkel, puis après M. Macron, et ainsi de suite. Et chacun va signer ses accords commerciaux séparément. Si on veut peser vis-à-vis de cette puissance énorme, il faut y aller de façon cohérente et unie, y compris sur le plan technologique. Je ne sais pas quelle est aujourd'hui la stratégie des pays européens sur Huawei. Mmh. Est-ce que Huawei est vraiment le cheval de Troie du régime chinois sur la 5G? C'est une question qui mérite d'être posée, parce que c'est quand même un enjeu fondamental. Les Américains ont une position assez dure, assez négative. Nous, on tergiverse, en moyenne, comme toujours.
Vous êtes un gaulliste convaincu, on arrive à la fin de cet entretien. Est-ce que vous pensez, quelle est selon vous l'actualité du gaullisme pour la France, hein, au niveau international? Quel est le fait, est-ce qu'on peut le dire, dans un monde globalisé, sans se dire qu'est-ce que De Gaulle aurait fait à chaque fois, mais quel est le message? Est-ce qu'il y a toujours un message gaulliste, un héritage gaulliste pour notre diplomatie?
Il y a un mot qui est redevenu très à la mode aujourd'hui, c'est celui de souveraineté. De Gaulle parlait plutôt d'indépendance nationale. Je crois que cette idée que la France doit affirmer ce qu'elle est sur la scène mondiale et ne pas se laisser embarquer dans une tendance à la vassalisation, comme je l'évoquais, c'est un message très fort qui a été maintenu par les successeurs du général de Gaulle et qui est aujourd'hui très, très, très vital. Encore faut-il s'en donner les moyens. Mmh. Ça, c'est pas évident. De Gaulle, ça avait donné les moyens. Les grandes réformes économiques de 58, voilà. Etc. Plus les initiatives sur la force de dissuasion, les grands plans, etc. Donc tout ça. Est-ce qu'aujourd'hui, on a à nouveau cette volonté, je l'espère, donc tout passe par une certaine crédibilité économique et stratégique de la France. Et puis, alors, c'est là peut-être que je suis un gaulliste pas tout à fait orthodoxe. Je pense que cette volonté d'affirmer que la France reste la France, ça ne peut passer que par une coopération européenne accrue. On n'y arrivera pas tout seul, c'est une évidence qui s'impose. Je défends la thèse selon laquelle De Gaulle a été un Européen. En 58, quand il met en application le traité de Rome, le patronat français n'en veut pas. Ils en ont trop, ils ont peur de la concurrence allemande. De Gaulle, si, on va faire les réformes nécessaires et on va y aller. Après, bon, un plan Fouché qui n'a pas réussi, etc. Donc, moi, je ne lis pas le gaullisme comme un anti-européanisme. Pas du tout. Et je pense que l'action de Jacques Chirac, malgré quelques balbutiements au départ, je rappelle l'appel de Cochin pour lire.
Mais il y a un des rares motifs de discorde avec lui que vous avez.
Dans... Oui, mais je soutiens et j'ai trouvé confirmation dans ses mémoires qu'il l'a signé sans le lire. Voilà.
C'était de Juillet Garou, quoi.
Il était sur son lit d'hôpital. Ouais. Je l'ai vu à ce moment-là, Cochin, il souffrait comme une bête. Enfin bon, refermons cette parenthèse. Si on devait cela, Chirac, c'est 92, Maastricht. Si lui, Balladur et moi, on n'avait pas appelé nos électeurs à voter pour, ça n'aurait pas été 51-49, ça aurait été 49-51. Ensuite, et ça m'a amusé, je le raconte dans mon livre, puisque c'est M. Macron qui rend hommage à mon gouvernement, 95-97, Chirac me laisse faire, on me conduit à prendre des mesures pour qualifier la France pour l'entrée dans l'euro. On n'était pas qualifié en 95, on était quasiment en 97-98. Donc voilà, je vois toute une série d'actes de Chirac qui vont tout à fait dans le sens de l'Europe. Sa campagne de 2005 sur le référendum, ou là, ça n'a pas été sur le traité, sur la constitution, qui n'a pas été un succès. Donc finalement, je me sens assez à l'aise en disant gaulliste et européen.
Merci Alain Juppé de cette conclusion tout à fait cohérente.